Mercredi 27 mai 2020, soyez au rythme du Niger avec le studio Kalangou. Il est 18h, l'heure de votre journal en français. Je suis Rukaitou Abdraman. À la une, plus de 3000 fausses alertes sont enregistrées par le service d'aide médicale d'urgence SAMU de Niamey depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Vous entendrez Dr Alassane Ila, directeur adjoint de cette institution. L'utilisation des eaux polluées par certains producteurs maraîchers de Niamey est une pratique dangereuse pour la santé, à suivre les explications du professeur Abdou Bonchanti dans ce journal. La saison des pluies s'annonce, c'est l'occasion de vérifier l'état des murs et toitures des habitations. Dans la partie magazine de cette édition, l'architecte Mansour Hadji répond aux questions de Talata Abdou Bahar. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 au Niger, le service d'aide médicale d'urgence SAMU de Niamey reçoit plus de 5000 appels par jour. Selon le directeur adjoint du SAMU, plus de 3000 sont de fausses alertes. Docteur Ila Al-Hassan est au micro de Moussa Hassan.
Par jour, en tout cas, depuis qu'on a mis les 5 lignes, c'est pas moins de 5000 appels qu'on a. Et dans les 5000 appels, les appels malveillants tourne autour de 3000 appels par jour. C'est énorme. Il faut que les gens comprennent que les téléphones, même si c'est gratuit, c'est pas fait pour appeler juste pour jouer. C'est fait pour réellement dire les vraies détresses. Parce qu'à chaque fois que vous appelez, rappelez-vous que vous êtes en train d'occuper une ligne qui devrait être utilisée par quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc vraiment, j'en appelle justement à la diligence de tous d'appeler que quand c'est nécessaire. Notre problème, on ne peut pas effectivement recenser tous les numéros malveillants, ce n'est pas possible, mais on fait ce qu'on peut effectivement pour les bloquer, parce que le plus souvent, c'est des gens qui appellent juste pour s'amuser. Peut-être l'autre solution, c'est de faire effectivement des numéros 15 locaux. Par exemple, de Maradi, vous ne pouvez pas appeler Diami.
À Agadez, la direction régionale des transports, en collaboration avec la police, envisage d'entreprendre des contrôles inopinés au départ des bus tôt les matins. Selon Mohamedou Boubacar Tunkara, le directeur régional des transports, cela permettrait de constater si les compagnies de transport respectent les consignes édictées par le gouvernement dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Des propos recueillis par Moussa Ahmad.
Au niveau des barrières, nous allons incessamment commencer les contrôles inopiné au départ des bus de la ville. Chaque matin, maintenant, nous allons essayer de faire ça. Donc, on ne doit pas leur dire que c'est juste pour voir s'ils respectent les consignes du gouvernement sur le transport. Et j'appelle aussi la population à être un peu regardante sur cela. Il ne faut pas qu'ils acceptent que les transporteurs les places trop serrées dans les bus. Il faut qu'ils exigent que cette distance-là soit respectée. Et le port aussi des masques doit obliger à instaurer cela à tous les passagers. Donc on va voir maintenant avec l'aide de la Direction régionale de la santé publique comment on va juguler ce problème-là concernant les bavettes.
À Niamey, une personne a été testée positive au Covid-19 avec un décès enregistré, a annoncé hier le communiqué du ministère de la Santé. À ce jour, selon le même communiqué, on compte 952 patients infectés au nouveau coronavirus, dont 93 sujets en cours de traitement, 796 sorties guéries et 63 décès. Environ 400 jeunes s'étaient retrouvés samedi, jour de la fête de Ramadan, sur les berges du fleuve Niger à Niamey. Ce même jour, 4 personnes ont trouvé la mort dans ce fleuve, selon le gouverneur de la région de Niamey. C'est le chavirement d'une pirogue qui a été à l'origine de cet accident mortel. Issak Hassan Karanta est interrogé par Diallo Mariama Kenda.
C'est une pirogue qui avait chaviré la veille à la hauteur de Kombo et les occupants, au nombre de 4, avaient disparu. Donc ce sont ces 2 corps provenant de cette pirogue qui a chaviré qu'on a retrouvé et identifié. Parlant toujours des berges, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ou Covid pour empêcher de tels regroupements, j'ai instruit les vedettes de la gendarmerie de patrouiller sur le fleuve. Tout comme j'ai eu à mettre en contribution le chef de quartier de Gaoué, qui est le chef des Sorko, c'est-à-dire des pêcheurs. Il a exprimé un besoin de filet, ce que le ministre de l'Environnement a vite fait de solutionner à travers le directeur de la pêche. Jusque-là, nous n'avons pas recensés de morts par noyade à la suite des baignades.
Agriculture urbaine et santé publique, à Niamey, certains maraîchers utilisent des eaux polluées dans la culture des légumes destinés à la consommation locale. Pour professeur Abdou Bonchanti, chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines, le recours à l'eau polluée impacte la santé des populations. Il est au micro d'Olivier Asokbavi.
L'eau polluée que les gens prennent pour alimenter, pour arroser les légumes, eh bien, cette eau-là, si elle est polluée, a deux conséquences. Donc, les plantes, à force de prendre l'eau polluée, d'arroser les plantes, ingurgitent les polluants. Donc, ça s'appelle la bioaccumulation. Maintenant, ces plantes-là sont acheminées vers les marchés pour la consommation. Et donc, il y a un phénomène de bioamplification parce que la contamination va se passer de la plante à la population qui consomme. Parce qu'à force d'utiliser les plantes, on risque aussi d'être contaminé par les polluants. Je parle par exemple de la salade, de la carotte, je parle de tous les produits maraîchers.
Nombreuses sont les femmes nigériennes rurales qui se battent tous les jours pour devenir autonomes. Selon le groupement féminin Fahamei de Niamey, qui signifie bienveillance en français, les acteurs qui œuvrent pour la promotion de la femme nigérienne pourraient davantage s'intéresser à ces femmes rurales. Hajia Kadi Soumana, membre du groupement Fahamei, est au micro de Rahilatou Soumana.
Il faut aider les femmes rurales à subvenir à leurs besoins, notamment l'accès à l'eau. Si on met ces femmes dans de meilleures conditions de travail, elles pourront mieux s'en sortir, d'ailleurs même mieux que celles des zones urbaines. Les femmes qui ont bénéficié de puits, de fourrage et autres appuis, elles s'en sortent très bien. Par exemple, ici à Niamey, au niveau du quartier où se trouvent les châteaux d'eau jumeaux, on a octroyé aux femmes du quartier un espace pour faire de la culture de contre-saison. Pourtant, c'est entre deux voies, c'est une place publique et elles s'en servent pour subvenir à leurs besoins. C'est pour cela que je demande de sensibiliser les femmes rurales, les appuyer en ouvrage hydraulique pour les aider dans leur activité. Parce que quand la femme est autonome, c'est toute la famille qui en bénéficie.
Énergie domestique et gestion environnementale, de plus en plus de Nigériens prennent conscience de la nécessité de préserver l'environnement et se tournent vers d'autres sources d'énergie autres que le bois de chauffe. Cependant, rares sont les ménages qui utilisent le charbon minéral pourtant disponible sur le territoire national. Pour le directeur général de la Société nigérienne de carbonisation du charbon, le temps que prend le charbon minéral pour s'allumer est la principale raison de cette réticence. Zamnaou Tahirou au micro de Moussa Hassan.
Le principal obstacle, c'est le temps de prise du charbon minéral. Quand vous l'allumez, il faut attendre une vingtaine de minutes avant de poser la marmite. Donc c'est ce temps d'attente-là qui décourage en fait les consommateurs. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la quantité de chaleur dégagée par le charbon minéral est trois fois supérieure à la quantité de chaleur dégagée par le bois. Ce qui fait que les 20 minutes qu'ils mettent à attendre pour que le charbon prenne, ils peuvent le récupérer sur le temps de cuisson. Puisque si votre cuisine vous prend une heure de temps, par exemple, eh bien, avec le charbon minéral, en 25 minutes, vous avez terminé la cuisson. Quant à la disponibilité, actuellement, nous tournons autour de 1200-1300 tonnes par an. Nous sommes immobilisés à ce niveau de production parce que la production se fait de manière artisanale, c'est manuel. Donc, nous envisageons de trouver des financements pour que le tri de charbon soit automatisé.
Jeûne surrogatoire de l'après-Ramadan recommandé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Selon le prédicateur Oustaz Abdel Fattah Mahamadou, ces 6 jours de jeûne peuvent être faits successivement ou séparément. Il précise qu'ils ne sont pas obligatoires mais présentent néanmoins beaucoup de mérite. Il est joint au téléphone par Nafissa Adamousirfou.
Le point de vue le plus prépondérant souhaite à ce que l'on fasse les 6 jours dans le mois de Shawwal, même si l'on est redevable et des jours manquants. Soit on peut les jeûner successivement. On commence juste après la fête et on fait 6 jours d'emblée. On peut aussi les faire séparément, jeûner un jour, se reposer. L'essentiel, il faut avoir 6 jours dans le mois de Shawwal. Vous savez, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quiconque parmi les fidèles musulmans aura jeûné le mois de Ramadan dans son intégralité, 29 ou 30 jours, et que dans le mois de Shawwal, la personne fait 6 jours de jeûne, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Quiconque aura jeûné un seul jour de jeûne surrogatoire se voit déjà distancé de l'enfer de 70 années.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve très soucieuse.
Donc tu n'as pas entendu la nouvelle?
Mais c'est quoi cette nouvelle qui t'angoisse tant?
La maladie là qui fait des ravages dans le monde entier, elle est venue chez nous.
Tu parles de coronavirus?
Mais oui.
C'est vrai, la maladie, elle est bel et bien arrivée chez nous. Mais tu ignores qu'on peut bien se prévenir?
C'est une bonne nouvelle. En faisant comment?
Eh oui, les spécialistes de la santé conseillent de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans les creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Il faut garder au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Il faut éviter les déplacements non essentiels et éviter aussi tout regroupement.
Tout? Et le mariage de ma fille?
Hé, ma chérie, pense à ta santé et à celle de ta famille.
Je te remercie beaucoup pour cette nouvelle que je vais d'ailleurs partager avec toutes les voisines.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, la saison pluvieuse s'approche, d'où la nécessité pour beaucoup de procéder à un état des lieux de leur habitation pour détecter les fissures dans les murs et autres trous éventuels de la toiture. Le diagnostic posé arrive l'étape de faire appel à des professionnels pour les réparations. Pour Haji Mansour, architecte secrétaire général de l'Ordre des architectes du Niger, anticiper c'est la clé de voûte. Haji Mansour répond aux questions de Talata Abdoubahar.
Comment préparer son habitat pour mieux accueillir la saison pluvieuse? Avec nous, l'architecte Haji Mansour. D'abord, quelle précision peut-on apporter au mot habitat?
Il y a différents types d'habitat. On peut distinguer l'habitat rural, l'habitat urbain. Il y a des caractéristiques de l'habitat qui se développent de plus en plus comme l'habitat écologique. En fait, l'habitat est l'environnement dans lequel l'homme vit et construit son espace de développement.
Quel conseil donner aux propriétaires pour éviter les désagréments de fuite ou d'effondrement?
Quel que soit le type d'habitat, à l'arrivée de la saison des pluies, il est important de faire un diagnostic. On a l'habitude de constater souvent des fuites au niveau des charpentes quand il s'agit de bâtiments traditionnels. Vous pouvez avoir des infiltrations liées au fait que l'étanchéité n'est plus assurée au fur et à mesure des années. Vous avez aussi dans les bâtiments plus modernes des infiltrations lorsque les tôles, les charpentes métalliques sont détériorées. Vous avez aussi des dalles qui sont mal étanchées. Alors la première des choses à faire pour un propriétaire, c'est de faire cet état des lieux avant même que la saison des pluies n'arrive, de constater s'il n'y a pas de détérioration, si les couvertures sont propres, parce que lorsqu'elles sont mal entretenues, lorsqu'elles sont sales, cela favorise l'infiltration d'eau dans l'habitation.
Que dit la loi en ce qui concerne les locataires?
Lorsqu'on a un contrat de location, on a des clauses qui indiquent quelles sont les réparations que doit effectuer le propriétaire et quelles sont les réparations que doit effectuer le locataire. Il est clairement stipulé que tout ce qui concerne le bâtiment, sa structure ou son étanchéité concerne le propriétaire. Le locataire a le droit d'indiquer, lorsqu'il constate des infiltrations ou des détériorations, d'indiquer au propriétaire ses désagréments qu'il constate et de lui demander de faire les réparations. Le locataire ne doit pas faire les réparations à la place du propriétaire. Il doit l'informer de la situation de son bâtiment et le laisser lui-même réaliser les travaux.
C'est la fin de ce journal. Place à présent au forum du studio Kalangou avec Fatih Zakari sur le visage de la délinquance juvénile au Niger, vol et meurtre.